cours de métaphysique du cours de métaphysique du 15 novembre 1983, Père Marie-Dominique Philippe Rimaud.
Allons continuer cette recherche sur la personne dans saint Thomas. Je vais vous rappeler ce passage curieux, intéressant du jeune Thomas, disciple d'Albert le Grand. Parce que c'est saint Albert le Grand. Et qui répète son maître, puis qui ensuite va le dépasser. Et c'est la grandeur d'Albert le Grand, c'est d'avoir laissé passer son disciple devant lui. Ce qui est toujours la grandeur d'un maître. Donc, dans le commentaire des sentences, et alors à la solution première, on n'est qu'à regarder dans la note, page 691, est impliqué aussi quelque chose qui fait appel à l'intention, sous laquelle le nom de personne signifie sa réalité, car il ne signifie pas la substance rationnelle absolument, mais selon qu'elle est sous-entendue, c'est-à-dire sub intelligitur, l'intention, selon qu'est sous-entendue l'intention particulière. C'est curieux, c'est pour ça que je ne lis pas ça. C'est pas toujours clair, les sentences. C'est pour les jeunes professeurs, c'est toujours très agréable de lire les sentences. Parce qu'on voit que saint Thomas est un peu compliqué. Tandis qu'il est très limpide dans la somme. Mais dans les sentences, il est un peu compliqué. C'est très vrai. D'abord, le latin n'est pas si commode que ça. Traduisez les sentences, ça vous amuse. Hein. Ça, c'est un bon exercice. La somme, c'est rien du tout à traduire. On sait que c'est très difficile à traduire, mais les sentences, c'est bien plus difficile. Vous savez qu'on a constaté que le langage de saint Thomas s'est simplifié beaucoup des sentences à la somme. Alors je reprends cela parce que c'est intéressant ce petit passage. C'est pourquoi on ajoute individuel. Vous voyez, saint Thomas essaie de comprendre pourquoi on met substance individuelle. C'est la fameuse chose. Où il met le point de vue du genre, de la réalité signifiée par le nom personne, on l'appelle substance, la différence par laquelle le genre est posé, donc on dit rationnel, et le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité individuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ajoute, vous voyez, genre, différence spécifique, vous savez, on était resté là la dernière fois, genre, différence spécifique. Normalement, ça suffit, hein, genre différence spécifique. Et là, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est très curieux, quand saint Thomas dit le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité, réalité individuelle. Le point de vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le point de vue? C'est le troisième aspect. Individuel. Alors, ça, c'est pas de la logique, le point de vue. C'est pas de la logique, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, je prends pour mieux comprendre ce passage des sentences, parce que là, il l'explique. Hein, est impliqué aussi quelque chose qui fait appel à l'intention sous laquelle le nom de personne signifie sa réalité. Car il ne signifie pas la substance rationnelle absolument. Donc, prise absolue, appelons d'une façon simplement ça, substance rationnelle qui est substance, hein, rationnelle, c'est pas uniquement ça, ça c'est une définition universelle. C'est une définition universelle. Hein. C'est la division animale raisonnable. Certains m'ont dit, ah non, il y a quelque chose d'autre dans le point de vue de la personne. Mais selon qu'est sous-entendu, sub intelligitur, l'intention particulière, c'est pourquoi on ajoute individuel. Alors vous voyez cette chose très curieuse, c'est vraiment très curieux. Je ne sais pas comment saint Thomas a pensé ça, on lui demandera au ciel, parce que c'est quand même très curieux. Vous avez l'universel et l'individuel. Hein? Vous voyez, la grande intention de Hegel, hein? Arriver à un universel singulier, individuel. Ça qui m'intéresse ici, parce que c'est quand même très curieux, et c'est dit explicitement dans la pensée de saint Thomas. C'est dit explicitement. Mais comme les génies se retrouvent, hein, toujours, ben, la cuisine apprécie autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même quelque chose de très particulier ici. Vous avez universel, et puis vous avez individuel. Et qu'est-ce que c'est la personne? La personne doit faire la synthèse de l'universel et de l'individuel. L'universel, c'est nature. Individuel, c'est justement cette chose unique. On est tous original, d'une originalité unique. Nous avons la nature humaine, mais ce n'est pas la nature humaine qui définit notre personne. Il y a quelque chose d'unique. Comment arriver à préciser ce quelque chose d'unique? Tout à fait propre à l'homme. Parce que la vache n'a pas de personne. Ce n'est qu'individuel. Mais... Alors vous voyez, c'est le passage de la nature à l'individuation. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a quelque chose de particulier par l'esprit, que l'esprit qui existe et qui subsiste dans la personne humaine, l'esprit ne peut pas rester au niveau proprement universel. Et alors, vous allez dire, ah, c'est l'exister. Oui, c'est l'exister, mais l'esprit, il y a les deux. Mais déjà, le passage de la nature universelle à l'individu, ça c'est propre à toute espèce de réalité. Pourquoi? Parce que l'exister est toujours singulier. Il y a un problème nouveau quand il s'agit de la personne, c'est l'esprit. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc il y a deux appels à l'individuel, l'exister et l'esprit. Et je crois que ça, on retrouve bien l'intention profonde de Hegel. Ça qui est intéressant, c'est pour ça que certains disent Hegel et saint Thomas, vous savez bien, il y en a qui veulent faire la synthèse. Ils veulent faire la synthèse entre Hegel et saint Thomas, en disant qu'au fond, après tout, Hegel sait écrire saint Thomas selon un langage moderne. On est thomiste et hegelien. Ça existe, hein, c'est pas, je l'invente pas. Je ne suis pas, mais on est thomiste et hegelien. Et pourquoi? Parce qu'on retrouve, au fond, chez saint Thomas, ici, dans le mot personne, et on retrouve chez Hegel une intuition profonde commune. Ça, c'est intéressant. Et quelle est cette intuition profonde commune? La personne. Vous voyez bien ce que je vous disais au point de départ, hein? La personne, c'est le noyau fondamental de toute la pensée philosophique. Toute la pensée philosophique doit aboutir à préciser ce que c'est que la personne. Parce qu'au fond, je crois qu'on est philosophe quand on a le sens de l'universel et quand on a le sens du singulier. Si vous avez le sens de l'universel, vous êtes un bon logicien. Si vous avez le sens du singulier, vous êtes quelqu'un qui décrit. Vous n'êtes pas philosophe. Le philosophe veut unir les deux. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce sont les deux pôles de l'intelligence humaine. Mon intelligence humaine a un mode universel et mon intelligence humaine revient toujours au singulier. La réalité singulière. Et je veux unir les deux. Une philosophie ne peut pas se contenter uniquement de l'universel. Elle doit tout le temps revenir au singulier. Et c'est au fond, c'est le gros problème de la philosophie. Hein. C'est d'arriver à unir les deux. Or, le noyau, vous voyez, s'éloigne de la personne. Alors c'est intéressant de voir que le jeune saint Thomas, vous voyez, se casse la tête là-dessus. Il se casse la tête là-dessus, hein, parce que enfin, c'est très intéressant de voir ça. Le point de vue sous lequel passe l'individu. Le point de vue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique, hein, ce sub intelligitur. Intelligitur, sub, donc ce qui est sous-entendu, l'intention particulière, c'est pourquoi on ajoute individuel. Et saint Thomas précise que le nom de personne n'est pas un nom d'intention, comme singulier ou genre, ou espèce. Le nom d'intention, vous voyez ce que ça veut dire pour saint Thomas. Les intentions secondes, c'est-à-dire un être de raison. Un être de raison que l'intelligence fabrique. Le genre, ah oui, le genre c'est un nom d'intention. L'individu, le singulier aussi. Le singulier vagum, hein, le singulier vague, l'individu vague. Mais, saint Thomas dit, ce n'est pas un nom d'intention, mais un nom de la réalité, nomen rei, c'est le fameux nomen rei, et non pas un nomen intentionis, nomen rei, qui accidit aliqua intentio, scilicet intentio particularis, et in natura determinata, scilicet intellectuali ou rationali. J'espère que vous avez compris, je traduis quand même pour vous aider, c'est-à-dire un nom de réalité, un nom qui touche la réalité, auquel il arrive une certaine intention, c'est-à-dire l'intention de particularité, et ceci dans une nature déterminée, c'est-à-dire dans une nature rationnelle. Alors, c'est intéressant, vous voyez que déjà, on voit très bien ces trois choses qui fusionnent, substance, rationnelle, et puis la réalité dans ce qu'elle a d'individuel. Au fond, vous voyez trois ingrédients dans la personne. Si je regarde ce début de saint Thomas, hein, vous avez substance, premier ingrédient. Ce que Boès a très bien saisi. Rationnel, second ingrédient, donc c'est l'appel à l'esprit. Et puis troisième ingrédient, quelque chose d'individuel. C'est pas commode à voir. Hein. Alors la substance peut être universelle, rationnelle à la rigueur peut-être, hein, mais personne fait une espèce de synthèse. Vous voyez les trois moments de la synthèse hegelienne. Vous avez trois moments aussi. Alors vous pouvez, c'est pas, vous ne voyez pas ça dialectiquement, mais quand même, il y a trois aspects qui me semblent intéressants à souligner. Saint Thomas reprend, alors c'est tout à fait autre chose, si vous voulez, mais c'est intéressant aussi à noter, dans le De Potentia. C'est beaucoup plus tardif, hein, le De Potentia, c'est pas du tout. C'est beaucoup plus tardif, c'est à la fin de saint Thomas. Mais dans le De Potentia, question 9. Article 2, ad secundum, saint Thomas reprend, la personne, pas plus que l'hypostase, n'est un nomen intentionis, comme singulier individuel. Donc, ça fait partie de la terminologie de saint Thomas, il faut bien comprendre. Le nomen intentionis, l'être de raison. Le nomen rei, qui est la réalité qui existe. C'est tout simplement distinguer, vous voyez ce que saint Thomas fait, constamment, distinguer le point de vue de l'être réel et l'être d'intention. L'intention seconde, c'est-à-dire l'être de raison. L'être de raison, c'est l'universel. Toute la logique regarde les êtres. Alors que la métaphysique, la philosophie regarde l'être réel. Puisque la philosophie regarde l'être réel, et que l'être réel est singulier, la philosophie doit toujours toucher le singulier. C'est ça la très grosse difficulté, parce qu'on a dit, hein, en scolastique, on a dit habituellement, l'intelligence regarde d'abord l'universel. Donc, quand vous faites de la métaphysique, vous planez dans l'universel, puis vous ne regardez plus du tout le singulier. C'est très faux. Ça prouve qu'on fait de la logique, et plus de la philosophie. La philosophie doit tout le temps garder contact avec l'être réel, avec l'être existe. Et c'est là la très grosse difficulté. Elle doit s'élever très haut dans l'universel. Alors ce n'est pas l'universel logique, c'est le point de vue du principe. Et elle doit maintenir le contact avec l'être réel. Et ceci, la personne nous met tout de suite en présence de ce problème. Alors, Nous avons touché ce point de départ de saint Thomas. Nous allons maintenant regarder tout de suite, si vous voulez, saint Thomas dans la Somme. C'est intéressant de regarder tous les moments de saint Thomas. Ça vaut la peine. Quelqu'un qui veut faire un petit travail intéressant, aussi bien de théologie que de philosophie. Parce que je crois qu'on peut faire ça aussi bien au point de vue théologique qu'au point de vue philosophique. Ce serait une petite enquête. C'est pas fait, c'est un très bon petit article à faire. Regardez le mot « personne » dans toutes les œuvres de saint Thomas. Et ça vaudrait la peine, parce que c'est une clé. Je vous dis, ce premier moment est très intéressant à noter. C'est très intéressant. C'est pas bien difficile, ça. C'est des petits travaux qui sont très intéressants, parce que ça nous oblige de regarder très proche les textes, et en même temps, ça nous fait comprendre comment saint Thomas digère. On fait des coupes sur la digestion métaphysique de saint Thomas. Premier saint Thomas, second saint Thomas, troisième saint Thomas. Et on voit bien comment il digère. Or, c'est au niveau de la personne, je crois, qu'on saisit mieux. Un bon médecin sait à quel moment il faut regarder les choses. Et quand il les regarde mal, il ne comprend rien du tout. Alors, il faut regarder certains aspects qui nous aident à mieux comprendre ce que c'est que la pensée de saint Thomas. Dans la Somme, saint Thomas justifie ainsi la définition de Boès. Toujours, hein, la définition de Boès, on ne peut pas la rejeter, parce qu'elle fait partie du patrimoine, si vous voulez, du patrimoine théologique. Et tradition, on ne peut pas le rejeter. Donc saint Thomas ne rejette pas la définition de Boès. Mais chaque fois, il la commande différemment. Donc, première herméneutique, la sentence. Deuxième herméneutique, la définition de Boèce dans la Somme. Si la distinction particulière universelle se retrouve dans tous les genres, universel, particulier, universel, individuel, ça se retrouve partout. C'est une coupe générale de l'intelligence. Tout ce que l'intelligence touche, elle peut le regarder d'une manière particulière et d'une manière universelle. C'est pour ça que c'est ça qui est inquiétant. Et c'est pour ça que l'intelligence, au point de vue philosophique, ne peut pas quitter le singulier, même si elle s'élève à l'universel. Si la distinction particulier-universelle se retrouve dans tous les genres, l'individu, cependant, se trouve dans le genre de la substance d'une manière très particulière. Car la substance est individuée par elle-même. Alors vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que le point de vue particulier sous lequel on va se placer va se ramener ici. On va montrer que la substance a ceci de particulier par rapport à tous les accidents, c'est que la substance, elle subsiste. La substance est individuée par elle-même, tandis que les accidents le sont par le sujet qu'est la substance. Donc ce n'est plus un regard logique sur la substance, ce n'est plus le regard de la substance prise comme genre, c'est la substance prise comme principe d'être. Pourquoi la substance a-t-elle ce privilège sur la qualité, sur les autres accidents? C'est que la substance, elle est principe. Or, un principe, dans l'ordre de l'être, c'est quelque chose qui, par soi-même, va s'individualiser. L'être n'existe que dans le singulier. Ça, on est tous d'accord. L'être n'existe que dans le singulier. Mais l'accident devient individuel par la substance. Pourquoi ? Parce que l'accident ne touche l'être que par la substance. La substance, qualité, n'atteint l'être que par la substance. Tandis qu'au contraire, la substance atteint l'être directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre substance et être. La substance, c'est tout simplement l'être dans son noyau primitif et premier. Et c'est pour ça que la substance, par elle-même, s'individualise. Il faut comprendre bien ça. Hein. Ça fait partie de la saisie profonde de la substance. Et quand saint Thomas dit ça, on voit bien que saint Thomas a très bien saisi que la substance n'était pas seulement au niveau logique. Parce qu'au niveau logique, il ne pouvait pas le dire. Il a donc très bien saisi que la substance est principe et cause de ce qui est. Autrement, il ne pourrait pas le dire. C'est parce que la substance est principe et cause de ce qui est que la substance par elle-même s'individualise. Par elle-même existe. C'est le problème de la subsistance. C'est le lien de la substance et de l'être, et de l'exister. Et ce lien de la substance et de l'exister, c'est un lien direct. C'est ça qui pose tout le problème, comment une substance peut-elle être créée? Vous voyez bien. Et c'est évident que c'est ça qui est intéressant à voir. Comment une substance peut-elle être créée? Parce que la substance s'individualise par elle-même. Elle est cause de l'être. Alors si elle est cause de l'être, elle n'est pas créée. Alors comment le problème de la création est au-delà de cette analyse? C'est ça qu'il faut saisir. Cette analyse est au niveau de la cause formelle, alors que le problème de la création est au niveau de la communication de l'existant. Donc il y a deux niveaux différents. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est un problème très subtil. Il faut arriver à saisir, parce que tant que vous ne l'avez pas saisi, fatalement, le problème de la création est un problème qui vous échappe. On le reverra à propos de la création. Dieu est capable de créer des personnes. Qu'on crée des parasites, ça va. Hein. Mais créer une personne, ça, c'est quelque chose. Et c'est là où on touche ce que c'est que la création. Réaliser des êtres qui sont totalement des petits poussins qui nous suivent, ça va. C'est le béaba d'éducation. Mais réaliser des êtres qui sont autonomes, ça c'est autre chose. C'est deux fois plus grand. Et c'est ça le problème. Hein. Le problème de la personne, c'est ça. Alors vous voyez, c'est intéressant que saint Thomas, dans la somme, rappelle quelque chose qui nous montre toute la différence avec les sentences. Les sentences, ils restent encore dans le schéma logique. Disciple d'Albert le Grand, disciple d'Avicenne, il n'a pas encore connu directement Aristote. Tandis que des sentences à la somme, il y a le contrat gentiles. Il y a le commentaire des métaphysiques. Saint Thomas est revenu à Aristote. Il a compris que quand on dit substance, ce n'est pas seulement le point de vue logique, ce n'est pas seulement le point de vue des catégories, c'est le point de vue métaphysique. Et c'est pour ça que la substance a par rapport à l'être quelque chose de tout à fait unique. Elle est principe. Si elle est principe dans l'ordre de l'être, par elle-même, elle s'individualise. Par elle-même, elle est singulière. Par elle-même, elle existe. C'est pourquoi les individus de la substance ont un nom spécial. Ils sont dits hypostases. Hypostase. Les individus de la substance sont dits hypostases. Ou substance première. Le sujet existant capable de recevoir des accidents. Alors, hypostase. Le passage de la substance à la substance première, à la substance individuelle, on la dira hypostase. On la dira sujet des accidents. Saint Thomas précise encore, l'individu est ce qui est en soi indistinct et distinct des autres. Il est distinct des autres et puis on ne peut plus le diviser. Donc incommunicable. C'est la première fois où saint Thomas souligne ça et ça c'est très intéressant. L'individu est ce qui est en soi incommunicable. Voyez comme c'est intéressant. Les modernes vont définir la personne par la communicabilité. Et la métaphysique définit la personne en premier lieu par l'incommunicabilité. C'est pas étonnant que dans la vie commune, on soit incommunicable. Il y a quelque chose d'incommunicable en chacun d'entre nous. Et quand vous croyez que vous êtes totalement communicable, vous avez oublié votre point de vue profond et vous êtes que des accidents et donc des parasites. Tandis qu'au contraire, si vous êtes des substances, il y a quelque chose d'incommunicable. L'individu est ce qui en soi incommunicable.
C'est le propre de l'individu. Il y a quelque chose dans l'être qui est unique. Oui, c'est l'égocentrisme métaphysique dans ce qu'il a de plus fort. C'est pas étonnant de sentir ça. Heureusement qu'on le sent. Parce que si on ne le sent pas, on perd, comme on dirait aujourd'hui, son identité. Perdre son identité, c'est justement croire qu'on est totalement communicable. Il y a quelque chose d'incommunicable. De plus, donc premièrement, Saint Thomas fait cette réflexion sur la substance. La substance a ce privilège unique comparativement aux accidents de subsister. Et de subsister dans son individualité. De plus, le particulier, l'individu, dans les substances rationnelles, qui ont un dominium sur leurs actes. Elles ne sont pas seulement mues, mais agissent par elles-mêmes, se réalisent selon un mode plus spécial et plus parfait, les actions se réalisent toujours d'une manière singulière. C'est pourquoi, parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial qu'on appelle personne. Alors vous voyez que le raisonnement est tout autre. C'est ça que je voudrais que vous sentiez. C'est le passage de la logique à la métaphysique. Ça, c'est très net. C'est le passage de la logique à la métaphysique. Et après, on fera l'inverse. Alors c'est intéressant de voir la montée. N'est-ce pas ? Et de voir comment on passe de l'homme. Alors vous voyez, comment il fait ce passage. C'est le troisième point de vue, le point de vue particulier individuel. À la place de mettre genre et différence spécifique, qui fait qu'on regarde les deux, puis après on colle quelque chose, en plus le point de vue par lequel on regarde. Alors on met tout ça dans le point de vue individuel. Saint Thomas ne fait plus ça du tout dans la somme. Il va faire le point de vue individuel, va regarder la substance. Et le point de vue individuel va regarder la rationnelle. Le point de vue individuel qui regarde la substance oblige de regarder la substance comme cause propre de ce qui est. Donc la substance subsiste. Elle subsiste en elle-même. Elle subsiste par elle-même. Et elle subsiste dans sa singularité et dans son individualité. Et cette substance qui subsiste dans sa réalité et dans son individualité, lorsque je suis au niveau de l'esprit, c'est la personne. Ah mais qu'est-ce que c'est que la personne ? La personne, c'est subsister d'une manière spirituelle. C'est ça. C'est subsister dans l'être, mais au niveau de l'esprit. C'est ça qui est très curieux. Et alors, le problème devient très particulier, nous allons le voir. Parce que c'est au fond essayer de comprendre le passage de l'exister, de l'essayer, subsister en soi, disait-elle, et le problème de l'esprit. Le lien est tout à fait différent. C'est subsister, ça, l'aspect de la substance, subsister en soi, exister en soi, et exister dans l'esprit. La personne implique les deux. Là, je suis au niveau de hypostasis. L'hypostase, c'est au niveau de la substance. Toutes les substances subsistent. Mais subsister en impliquant l'esprit, subsister au niveau de l'esprit, toujours dans l'être, c'est ça qui est très, très curieux, hein. C'est ça qui est très difficile à nous. Hein. Vous voyez bien, quand je prends esprit là, je ne prends pas l'intelligence. Je pourrais dire intelligence, mais j'aime mieux dire esprit, parce que c'est plus proche de la substance. Je pourrais dire nous, parce que pour les anciens, quand on dit nous, on ne parle pas tout de suite de l'intelligence rationnelle. On dit l'intelligence subsiste. Il y a des intelligences séparées qui subsistent. Ce sont des personnes. Une intelligence séparée qui subsiste, c'est une. Ça, ça veut dire une intelligence séparée qui subsiste, c'est une personne. Parce qu'elle est quelque chose de fondamental, premier. Donc, dans la personne, il y aura deux éléments absolument nécessaires à unir, l'élément du côté de l'être et l'élément du côté de l'esprit. Et comprendre que les deux sont un. Comme c'est curieux. Et on voit très bien comment Descartes, par le cogito, veut rejoindre la substance. Il fait la démarche inverse. Par la substance, je rejoins l'esprit. Et par là, j'ai la personne. Par l'esprit, je rejoins l'être. Descartes. Il déraille. Le déraillement se fait là, oui. Et c'est curieux, parce que là encore, on retrouve, vous voyez, c'est quand même intéressant, parce qu'on retrouve toujours cette espèce d'inquiétude et cette espèce de volonté d'unir l'esprit et l'être. Enfin, c'est le grand problème philosophique, métaphysique et le grand problème de la personne. Cogito ergo sum. Hein? Mais on prend par le cogito. Et par le cogito, vous ne le rejoindrez jamais. Si vous le prenez par la substance, ah, vous rejoignez. Et c'est justement une question d'ordre, une question de savoir comment on peut rejoindre et comment il faut le rejoindre. Et c'est de cette manière-là qu'on le rejoint. Donc on les appelle personnes, comme on dit. C'est pourquoi parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial, on les appelle personnes. Et ça, c'est un peu général dans toute la pensée de saint Thomas. Le nom d'hypostase signifie la substance individuelle, et quand cette substance individuelle implique le point de vue rationnel, quand cette substance existe en impliquant la nature rationnelle, je suis en présence de la personne. Donc ça, c'est au point de vue de la signification. C'est ça qui est intéressant à voir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la manière dont saint Thomas transforme la définition de Boèce. C'est le dépassement complet de la logique. Ça, je peux dire que dans la somme, le point de vue de la logique n'est plus du tout premier. Donc, hein, je conclue, si la personne est quelque chose de si important dans le point de vue de la connaissance philosophique, voir ce passage de la logique à la métaphysique, au niveau de la personne, voir ce passage des sentences, du commentaire des sentences à la somme, ça fait comprendre comment saint Thomas, en redécouvrant Aristote, redécouvre une pensée métaphysique. Et pourquoi saint Thomas revient à Aristote? C'est pour redécouvrir une pensée métaphysique. Alors que la tradition, à travers Avicenne, ne pouvait pas redécouvrir cette pensée métaphysique dans toute sa pureté. Pourquoi? Parce que le néoplatonisme ne distingue pas assez entre logique et métaphysique. Je crois qu'on peut conclure ça directement, si on essaie de comprendre un peu cette purification qui se fait dans la pensée de saint Thomas. Il faut donc, je continue, il faut donc, dans la définition de la personne in communi, saint Thomas dit, hein, la définition de la personne in communi. Quand saint Thomas dit la définition de la personne in communi, ne tombez pas dans l'abstraction logique. Hein. La personne touche toujours une réalité singulière. Mais je peux regarder cette réalité singulière in communi. C'est très difficile de bien voir ce que ça représente. Hein. Il faut donc, dans la définition de la personne in communi, poser la substance individuelle, qui signifie le singulier dans le genre de la substance, et ajouté de nature rationnelle, pour signifier le singulier dans les substances rationnelles, c'est-à-dire atteindre la personne. La personne, dans la nature rationnelle, signifie ce qui est distinct dans cette nature. Certes, le singulier peut être défini, il est donc certes, le singulier ne peut pas être défini, il est ineffable, mais on peut préciser la raison commune de la singularité. C'est ça, le in communi. Enfin, vous ne pouvez pas définir le singulier. Or, dans la définition de la personne, est impliqué le singulier. Donc, on ne peut pas définir la personne. Hein, c'est bien évident. Parce que tout singulier est ineffable. Bon, heureusement. Chacun, chaque toujours, quand les personnes veulent vous mettre sur une fiche, vous pouvez toujours dire, avec ironie, cette fiche ne m'atteint pas, je suis une réalité singulière. Or, cette fiche donne des aspects d'une définition. Je ne peux pas définir. Je ne peux pas définir le singulier. Il est ineffable. Je ne peux pas définir la personne. Elle implique le singulier. Toute personne est ineffable. Mais je peux essayer de comprendre la raison commune de la singularité, c'est-à-dire la raison commune de la personne. Et c'est ce que Saint Thomas fait quand il essaie de définir la raison commune de la personne. Bon, ça c'est le premier article très important, prima pars, question 29, article 1er. Saint Thomas essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la définition de la personne. Vous voyez bien, on entre dans le mystère de la très sainte Trinité, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que Saint Thomas dit, je définis la personne in communi. Saint Thomas ne définit pas la personne à partir de la très sainte Trinité. Il définit la personne à partir de l'homme. C'est l'homme qui me permet de parler de la très sainte Trinité. On va l'oublier. Hein. Il définit la personne à partir de l'homme, c'est bien évident. Il est théologien. Dans l'article suivant, saint Thomas montre comment personne, le mot personne, signifie dans le genre des substances rationnelles ce que la res naturae, la res naturae, c'est-à-dire la subsistentia, l'hypostasis, signifiait dans le genre des substances. La personne est donc bien res naturae. Vous voyez,
il ne signifie nomen. Il ne dit plus le point de vue
de la nomen rei. Il dit res naturae. Ce n'est plus le nom, c'est la réalité. Là encore, au point de vue langage, c'est intéressant. Et ça, ce sera le langage de saint Thomas définitif. Il parlera de res naturae. La réalité de la nature. Bon, la personne est donc bien res naturae, elle est bien quelque chose qui subsiste, elle est bien une hypostase, mais dans les substances rationnelles. Donc c'est ça qu'il faut saisir. Hein. Il faut saisir cette unité sur laquelle saint Thomas revient tout le temps. Ça c'est constant, un enseignement constant. C'est essayer de saisir ce point de vue de la substance, premier, le point de vue rationnel. Et rationnel, comprenons bien, c'est l'esprit, c'est la nature rationnelle. C'est pas quelque chose de rationnel au niveau logique. C'est pas la différence spécifique. Il faut bien saisir que le nom de personne signifie la substance et donc est dit ad se et non ad altero. La substance, elle est toujours per se, c'est un catoto. Elle se dit par elle-même, et non ad altero. Il signifie la réalité subsistant dans telle nature, et donc exprime quelque chose d'incommuni. Ça, je crois que c'est assez net et assez significatif. Donc, nous avons dépassé le point de vue logique pour aboutir à la réalité métaphysique, et dans cette réalité métaphysique, on tient deux choses. Comprenez bien, je n'ai pas l'intuition de la personne. Si j'avais l'intuition de l'être, j'aurais l'intuition de la personne. J'ai l'intuition du cogito, mais je n'ai pas l'intuition de l'être. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit reste de Descartes quand on dit qu'on a l'intuition de l'être. C'est un petit reste de Descartes. Parce que j'ai l'intuition du cogito. Hein. Quand vous cogitez, vous avez l'intuition que vous cogitez. Et vous avez l'intuition de non-cogiter. Quand vous êtes fatigué, au bout d'un quart d'heure, trois quarts d'heure du cours, en métaphysique, on ne cogite plus beaucoup, alors on a l'intuition que ça s'éteint. L'huile manque. Et alors ça commence à s'éteindre. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête. J'ai l'intuition du cogito, mais je n'ai pas l'intuition de l'être. Autrement, j'aurais l'intuition de la personne. Je n'ai pas l'intuition de la personne. Je vois que pour la personne, je suis obligé de prendre deux points de vue. Et je l'unis les deux. J'ai deux voies d'accès. J'ai deux voies d'accès. Je n'ai pas l'intuition de la personne. La personne, c'est quelque chose, comprenez bien, que je construis intellectuellement. C'est ma petite construction. Dire substance individuelle, quelque chose qui subsiste dans l'ordre de l'être, quelque chose de premier, de fondamental dans l'ordre de l'être, et puis ce quelque chose en être, ah, c'est au niveau des natures rationnelles. Alors là, le lien entre les deux, j'en ai pas l'intuition. Si j'avais l'intuition de ça, je définirais la personne de façon simple. Alors, je ne peux pas définir la personne de façon simple. J'ai toujours deux éléments dans la personne. Le point de vue de l'être, le point de vue de l'esprit. C'est l'esprit dans l'être. Je peux dire que c'est l'esprit dans l'être. Et c'est l'être dans l'esprit, si vous voulez. Mais j'aime mieux dire que c'est l'esprit dans l'être. Parce que c'est plus juste. Que la personne signifie ce qui est le plus parfait dans toute la nature. Alors prenez bien, voyez bien comment saint Thomas va aborder le problème de la personne en Dieu. Nous avons regardé la personne dans l'homme et nous avons précisé, c'est important à saisir, que du fait même que c'est la subsistance dans la nature rationnelle, il y a comme conséquence le demi-nous. Je ne vais pas insister là-dessus, mais nous insisterons. Le demi-nous. Le demi-nous, c'est là où je vois comment la personne va se préciser la propriété, la conséquence. La personne, elle a cette capacité de dominer sur ses activités. Elle est responsable. Elle domine. Le demi-nous sur les opérations. Alors, le demi-nous sur les opérations, j'en ai conscience, hein. J'ai conscience de ça, quand je suis très éveillé. Je ne dis pas que j'en ai l'intuition, mais j'ai conscience. Mais c'est le fruit des deux. Donc, vous allez retrouver les trois éléments. Un, deux, trois. Vous trouvez les trois éléments. Et vous voyez que nous avons progressé. Grâce au demi-nous, je comprends que la personne est le fondement de toute morale. Que la personne est le fondement de toute morale. En théologie, il faudra se demander si en philosophie c'est vrai. Mais en théologie, c'est net. Quel est pour saint Thomas le fondement de la théologie morale? C'est la personne. Parce que c'est la personne qui a ce pouvoir, cette capacité de dominer par rapport à ses activités. Elle a son dominion. Alors, on va maintenant passer de cette définition de la personne au niveau métaphysique à la personne au niveau proprement divin. Est-ce que je peux dire que Dieu est une personne? Le théologien, comprenez bien. Et puis ensuite, on passera de la définition de la personne, du moins, ce qu'est la personne au niveau de Dieu par rapport à la très sainte Trinité. Vous voyez, toutes les analogies, hein. Ça c'est très important. C'est très important de bien saisir les niveaux d'intelligibilité où je me situe. Pour ne pas faire une mélasse. Je vois comment je vais aborder le problème. Bien, le problème, le passage de la personne au niveau humain, au niveau divin, se fait toujours par ce fait que la personne, c'est ce qu'il y a de plus parfait dans la nature. On peut donc l'attribuer à Dieu. Du fait même que son essence contient toute perfection. Le nom personne n'implique aucune imperfection. Et vous voyez bien, aucune imperfection. Puisque au niveau de l'être, c'est la substance, c'est l'esprit, et c'est le dominion.
Jésus, le fruit de vos entrailles.